Il est 10h à Paris, à l'écoute de Radio France Internationale, 9h en temps universel. Et le journal, c'est avec Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. À quelques semaines de son investiture, le président américain élu, Donald Trump, annonce la couleur. Il veut augmenter les droits de douane sur les produits importés de Chine, du Canada et du Mexique aussi. Ça fait forcément réagir, vous l'entendrez. Plus d'excuses et plus de requêtes supplémentaires, plaide le chef de la diplomatie européenne qui espère qu'Israël va accepter un cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban. Le cabinet de sécurité israélien pourrait se prononcer ce soir sur un texte proposé par les États-Unis. Les éleveurs français et argentins passent sur la même longueur d'onde. Côté France, ils ne veulent pas de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Côté argentin, au contraire, on y voit une opportunité à ne pas manquer. Et puis dans ce journal également, le nombre de déplacés internes qui explose en Afrique, il a triplé en 15 ans selon un observatoire international. C'est une importante démonstration de l'engagement à respecter nos valeurs démocratiques et à honorer la volonté du peuple. Les mots du porte-parole adjoint de la Maison-Blanche, il confirme que le président Joe Biden assistera bien à la cérémonie d'investiture de son successeur Donald Trump le 20 janvier prochain. Successeur et prédécesseur d'ailleurs, à la différence qu'en 2021, quand c'est le démocrate qui prêtait serment, Trump n'était pas présent. 4 ans plus tard, il s'apprête donc à reprendre les manettes de la Maison-Blanche et il en a dit un petit peu plus sur les premières mesures économiques qu'il compte prendre. Une augmentation des droits de douane de 25% sur tous les produits importés du Mexique et du Canada, 10% de plus pour ceux arrivant de Chine, des hausses qu'il justifie par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. Personne ne gagnera une guerre commerciale, réagit Pékin. Ça fait réagir aussi au Canada, correspondance depuis Québec de Pascal Guéricola.
Rapidement, la vice-première ministre du Canada et le ministre de la Sécurité publique ont rappelé les relations étroites qui unissent le Canada et les États-Unis. Ils ont aussi mis en lumière l'importance du marché canadien pour les exportateurs américains. Une façon de montrer l'interdépendance entre les économies des deux pays. À titre d'exemple, 60% des importations américaines de pétrole brut viennent de l'Ouest canadien. Pour le premier ministre du Québec, la hausse annoncée de 25% des tarifs douaniers représente un risque énorme pour l'économie québécoise et canadienne. Il a assuré le premier ministre du Canada de son soutien. Tout comme son homologue de l'Ontario, une province qui vit en partie de la construction automobile de part et d'autre de la frontière. Le premier ministre provincial a demandé à Justin Trudeau de tenir de toute urgence une réunion d'équipe Canada. Ce groupe d'élus et de chefs d'entreprise a pour objectif de faire valoir le point de vue canadien à l'administration américaine. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et à quelques semaines de sa prise de fonction, cette victoire judiciaire pour Donald Trump, une juge fédérale américaine a validé l'arrêt des poursuites contre le président élu dans 2 dossiers distincts. Le premier pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020, l'autre pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. Des affaires qui pourront quand même être relancées à la fin de son mandat. Et aux États-Unis, toujours, la Maison-Blanche l'affirme, un accord de cessez-le-feu est proche au Liban. Le cabinet de sécurité israélien pourrait l'accepter aujourd'hui. Selon le site d'information américain Axios, le texte proposé par les États-Unis prévoirait une trêve de 60 jours entre l'armée israélienne et le Hezbollah, ainsi qu'un retrait des deux camps du sud du Liban où l'armée nationale libanaise se redéploierait. Israël n'a pas d'excuse pour refuser un cessez-le-feu au Liban, déclare ce matin le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Et pendant ce temps à Gaza, la défense civile annonce la mort de 11 personnes cette nuit après des frappes dans plusieurs villes de l'enclave, dans l'extrême nord notamment, où une maison de Jabalia a été prise pour cible, une autre du côté de Beit Lahia. L'Ukraine annonce elle avoir subi une attaque nocturne record cette nuit, 188 drones de combat lancés par la Russie. Des immeubles résidentiels ainsi que des infrastructures essentielles auraient été touchés, selon Kiev qui parle également de 4 missiles balistiques. En France, les députés doivent débattre aujourd'hui de l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Les agriculteurs français sont toujours mobilisés contre cet accord. Ils y voient une forme de concurrence déloyale. Et le gouvernement est d'accord d'ailleurs et ne compte pas signer le texte en l'état. Alors parmi les points de blocage, la question des importations de viande. Or en Argentine, la filière bovine espère, elle, que l'accord sera bel et bien signé, mais s'agace des exigences sanitaires et environnementales européennes. Correspondance à Buenos Aires de Théo Conscience.
Pour la filière du bœuf argentin, l'ouverture de nouveaux quotas d'importation prévus dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur représenterait une grande opportunité. Miguel Scaretti est président de la CICRA, la Chambre d'industrie et de commerce de la viande argentine.
L'Union européenne achète entre 60 et 70 000 tonnes de viande argentine sur un total de presque 1 million de tonnes exportées. Mais ces 60-70 000 tonnes représentent 40% des revenus pour l'Argentine.
Un marché à haute valeur ajoutée qui a poussé l'Argentine à s'adapter aux normes européennes en interdisant dès 2004 l'utilisation d'hormones pour le bétail destiné à l'exportation vers l'Union européenne. Mais pour Miguel Scaretti, ces normes sont avant tout protectionnistes, au même titre que celles sur la déforestation.
C'est une barrière non tarifaire de plus, une manière d'augmenter les coûts des producteurs argentins et sud-américains afin que la concurrence soit plus équitable.
Pour le président de la CICRA, ces normes seraient hypocrites car elles répondraient moins à de réelles préoccupations sanitaires et environnementales qu'à la volonté de préserver la compétitivité des agriculteurs européens. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Des affrontements meurtriers ce matin au Pakistan, malgré un très imposant déploiement des forces de sécurité. Des milliers de partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan se sont mobilisés à Islamabad pour réclamer sa libération. Il est actuellement derrière les barreaux, poursuivi dans une centaine d'affaires. Des heurts ont éclaté avec la police. Les autorités parlent de 4 paramilitaires tués. Ils auraient été renversés volontairement par des manifestants en voiture. Ce chiffre maintenant, 35 millions, c'est le nombre total de déplacés internes en Afrique, soit 3 fois plus qu'il y a 15 ans, selon l'IDMC, l'Observatoire des situations de déplacement interne. Les raisons sont connues, la guerre d'une part, les catastrophes naturelles de l'autre. Le problème, c'est que parfois, les deux s'entremêlent. À Genève, Jérémy Lanche.
Au-delà du nombre total de déplacés, ce qu'il faut comprendre du dernier rapport de l'IDMC, c'est qu'on ne réglera pas la question du déplacement tant que les crises se superposent les unes aux autres. On le voit en RDC, on le voit aussi désormais au Soudan, qui a enchaîné la guerre au Darfour avec la guerre entre généraux qu'on connaît aujourd'hui. Alexandra Bilac est la directrice de l'IDMC.
Cette réémergence de conflits qu'on voit dans certains pays comme la Somalie, le Nigeria, l'Éthiopie, etc., viennent s'ajouter à des conflits qui avaient causé des déplacements il y a déjà plusieurs années, dans certains cas même une dizaine, une vingtaine d'années, où les personnes déplacées n'ont pas trouvé de solution à leur situation et donc une augmentation du nombre total de personnes déplacées.
5 pays concentrent à eux seuls 80% des déplacés liés aux violences, le Soudan, la RDC, la Somalie, le Nigeria et l'Éthiopie. Mais tous ces pays subissent aussi des catastrophes qui poussent les populations à fuir. Très souvent, ce sont des inondations.
Ce sont des catastrophes soudaines à grande échelle, tandis que les sécheresses, ce sont des catastrophes plus étalées dans le temps. Donc on a beaucoup plus de mal à quantifier le déplacement lié aux sécheresses.
Si empêcher le déplacement interne semble illusoire, il est toujours possible de mieux le gérer, notamment en arrêtant de le traiter comme une question purement humanitaire, mais aussi comme un aspect du développement durable. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
À 10h08 à Paris, les réquisitions vont se poursuivre aujourd'hui en France au procès des viols de Mazan, au procès Pellicot, du nom de cet homme, Dominique, accusé d'avoir drogué son épouse Gisèle aux anxiolytiques et de l'avoir fait violer au domicile conjugal par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. 51 accusés au total devant la cour criminelle du Vaucluse et le parquet a déjà annoncé hier ses réquisitions contre 21 d'entre eux. De la prison à chaque fois avec des peines allant de 4 à 20 ans, la plus lourde pour le principal accusé Dominique Pellicot. Autre affaire, elle secoue le monde du football depuis plus de 2 ans maintenant en France, l'affaire Pogba. Aujourd'hui, 6 proches du footballeur sont attendus au tribunal correctionnel de Paris pour répondre notamment d'accusations de chantage par vidéo, de séquestration et de tentative d'extorsion de fonds à Rambeng.
Parmi les 6 personnes jugées, il y a le grand frère de Paul Pogba. Mathias Pogba et 5 autres proches du joueur de football devront s'expliquer sur leur implication dans une affaire de kidnapping de l'international français. Paul Pogba avait déposé une plainte en Italie avant d'être entendu par des enquêteurs français de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Le footballeur raconte aux enquêteurs avoir été piégé en mars 2022 par des amis d'enfance et 2 hommes encagoulés armés de fusils d'assaut. S'en est suivi une nuit de séquestration pendant laquelle les ravisseurs de l'international lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement et lui réclament alors 13 millions d'euros. 100 000 euros auraient été versés par Paul Pogba à ses maîtres chanteurs. Les 5 prévenus sont jugés ce mardi à Paris pour extorsion, enlèvement et association de malfaiteurs et Mathias Pogba, lui, pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs.
Et puis pour ce qui est du foot sur les terrains, le début aujourd'hui de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. On suivra notamment le duel entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Caroline Paré, c'est à vous pour Priorité Santé.
Merci beaucoup Gaëtan Plenet.